Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors donc, le cours d'aujourd'hui va porter sur la troisième partie et qui va concerner donc les circuits électriques, cette fois-ci en régime variable. Et on va voir que parmi les régimes variables, on va s'intéresser au régime sinusoïdal. Alors donc, je passe à la diapositive numéro 2. Bien, alors donc, on va commencer par les généralités et redéfinir la notion de grandeur périodique. Alors donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au cours du premier semestre, vous avez travaillé essentiellement avec des circuits qui sont alimentés par des tensions qui sont des tensions continues ou des courants continus, des générateurs de tension continue ou de courant continu. Donc ça voudrait dire que pendant la phase où on vous demande de calculer les tensions et les courants dans les circuits, eh bien la tension du générateur ou la tension du générateur, pardon, de courant ou de tension reste constante pendant tout ce temps-là. D'accord? Bien, alors donc là maintenant on va étudier cette fois-ci le cas des circuits électriques qui eux sont alimentés par des sources de tension de courant de type variable, c'est-à-dire qui changent au cours du temps. Bien, alors donc, d'une manière générale, toutes ces sources de tension de courant sont périodiques. Donc, on va revenir sur quelques définitions, certainement que vous connaissez déjà, mais il est préférable qu'on puisse les reprendre. Alors, donc, une grandeur physique est dite périodique si le signal en question prend des valeurs identiques au bout d'un certain intervalle de temps qu'on va appeler la période. Donc mathématiquement, ça se traduit par l'équation S à l'instant t quelconque. Si vous rajoutez la période t, eh bien votre signal S de t prend exactement les mêmes valeurs. Donc à côté de la période, on définit la fréquence, qui est simplement l'inverse de la période. Alors là, l'information qu'on espère pouvoir utiliser à travers la fréquence, c'est simplement, ça nous donne une idée, en une seconde, il y a combien de fois le signal s'est répété dans un intervalle de temps d'une seconde. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un signal de 50 Hz. Alors, je ne l'ai pas pris au hasard puisque c'est la fréquence de la tension que délivre EDF pour donc à domicile en fait. Et 50 Hz, eh bien, ça correspond en réalité à 50 cycles dans un laps de temps d'une seconde, sachant que votre signal à une période de 0,02 secondes ou 20 millisecondes. Donc si vous multipliez la période du signal envoyé, qui est de 20 millisecondes, multipliée par 50, ça vous fait une seconde. Donc vous avez un motif qui est répété 50 fois en une seconde. Donc la fréquence, elle va essentiellement nous informer sur le nombre de cycles présents dans une seconde. D'accord? Et donc plus évidemment ce chiffre est élevé, et plus vous avez de taux de répétition qui est important. Alors donc on va passer à la diapositive suivante, la numéro 3. Bien, alors donc parmi les grandeurs périodiques, on en distingue deux. Donc vous avez les grandeurs dites monodirectionnelles. Alors, monodirectionnel signifie simplement que votre signal, votre fonction S de T, elle est soit tout le temps positive, soit tout le temps négative. Donc, contrairement à ça, vous avez des signaux périodiques qui peuvent être bidirectionnels, c'est-à-dire que dans ce cas, sur une période, eh bien, votre signal va changer de signe, il va être tantôt positif et tantôt négatif. Bien, alors donc, d'une manière générale, quand on va étudier les signaux périodiques, la La question qui va se poser quand ce sera appliqué à des circuits, c'est quand vous avez une tension qui est variable ou un courant qui est variable tout le temps dans un circuit, il est difficile de dire quelle est la valeur si ce n'est un instant donné. Mais l'instant d'après, ça aura déjà changé. Donc, pour contourner cette difficulté, on a essayé de définir des grandeurs physiques qui soient indépendantes justement de l'instantanéité de la variation du signal. Et donc on va définir deux grandeurs. Donc la première qu'on voit ici, c'est la notion de valeur moyenne. Alors donc elle est notée, comme vous le voyez, entre deux guillemets, S. Et dans la définition qu'on donne, eh bien c'est simplement l'intégrale du signal sur une période. Ça sert à rien de l'intégrer sur plusieurs périodes, puisque c'est répétitif. Donc si vous le regardez et si vous déterminez sa valeur sur une période, eh bien après, vous pouvez extrapoler. Donc le produit S de t que multiplie dt, ça va dépendre de l'unité de S de t. Donc en l'occurrence, on va le voir un peu plus tard que S de t va représenter soit une tension, soit un courant. Donc, et dt, c'est un temps. Donc, vous allez avoir soit des volts secondes ou des volts ou des ampères secondes. Et c'est la raison pour laquelle on va diviser par le rapport 1 sur t pour finalement enlever le temps et garder simplement l'unité du signal s de t. Alors, donc, mathématiquement, à quoi correspond l'intégrale entre 0 et t de s de t? Eh bien, c'est rien d'autre que, comme vous l'avez vu en terminale, c'est l'air sous la courbe S de t qui est ici en bleu. D'accord? Donc vous calculez l'air de cette courbe. Donc ça va vous donner une constante. Eh bien, on voit très bien que cet air-là va dépendre, par exemple, de l'amplitude du signal. Donc on peut bien imaginer que si on a des amplitudes un peu plus grandes, eh bien, le résultat de l'intégrale va être un peu plus grand. D'accord? Donc, on va commencer à pouvoir mettre des valeurs qui, elles, sont indépendantes du temps pour caractériser notre signal. Alors, on va passer à la diapositive numéro 4. Alors, donc, la question qui va se poser, c'est si j'ai un signal maintenant périodique, mais il n'est pas monodirectionnel, mais plutôt bidirectionnel. Et de plus, il est symétrique. Il est symétrique, ça veut dire que pendant la période pendant laquelle le signal est positif est identique à la période pendant laquelle il est négatif. Et donc ça se traduit mathématiquement par l'expression qui est écrite ici, à savoir que S de t plus t sur 2 est égal, avec un signe moins, puisque c'est inversé, égal à moins S de t. Donc dans ce cas-là, si on calcule la valeur moyenne de ce signal-là, tel qu'on l'a défini, eh bien, donc notre intégrale peut être scindée en deux. Une première intégrale entre 0 et t sur 2 sur la partie positive du signal, et une deuxième intégrale sur la partie négative du signal en rouge. Et donc, comme il est symétrique, ça veut dire que le signal, finalement, au sinus près, il est identique. Donc les deux surfaces vont être identiques, la surface notée plus est égale à la surface notée moins. Et donc le résultat, c'est que l'intégrale va valoir 0. Et donc là, on va être embêté, puisque on a cherché à déterminer, pour échapper à la variation au cours du temps de la grandeur S de t, on a essayé de définir quelque chose qui serait indépendant du temps, mais il se trouve que quand on a affaire à des signaux de type bidirectionnel symétrique, eh bien, le signal, la valeur moyenne du signal vaut 0. Donc, la conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut définir une autre constante électrique qui permette de contourner cette difficulté et qui apporte un complément d'information sur le signal S de t étudié. Alors, donc, on voit bien que le problème pour que notre intégrale s'annule, c'est parce que le signal, justement, il y a une partie positive et négative. Donc du coup, si on élève au carré le signal, on va contourner ce problème. Donc on va définir une nouvelle intégrale basée sur le carré de S de t et qu'on va appeler la valeur efficace. Donc d'un point de vue définition, on garde le même type de relation, donc c'est une définition sur une période, entre 0 et t, mais on élève le signal au carré. Donc dans ce cas-là, on est à peu près sûr, si notre signal évidemment est différent de 0, qu'on va obtenir une intégrale non nulle, d'accord ? Quelle que soit la forme du signal, bidirectionnel ou pas. Alors, donc on va passer à la diapositive suivante, la numéro 5. Alors, donc, parmi les signaux, justement, qui sont de type bidirectionnel symétrique, eh bien, vous avez la classe des signaux périodiques sinusoïdaux. Alors, pourquoi privilégier, justement, les grandeurs sinusoïdales? Eh bien, on peut montrer, alors donc là, on n'a pas le temps vraiment de rentrer dans les détails, mais on peut montrer qu'à chaque fois que vous rencontrez un signal S de T qui est périodique, quelle que soit sa forme, hein, eh bien, ce dernier, il peut toujours être décomposé en une série ou une somme de fonctions sinusoïdales. C'est Fourier, donc un mathématicien français qui a fait ça, et qui montre qu'effectivement, n'importe quelle fonction périodique peut être décomposée en une série de fonctions sinusoïdales. Donc ça va être très intéressant puisque ça voudrait dire que quelle que soit la tension dans un circuit et quelle que soit la forme d'un courant dans un circuit pourvu qu'il soit périodique, eh bien on peut, même s'il n'y a pas de fonction analytique propre au signal, s'il est un peu biscornu, eh bien on peut toujours le décomposer ou le remplacer par une série dite de Fourier, c'est-à-dire une somme de fonctions de type sinusoïdal. Alors, donc, on arrive à la définition de la fonction sinusoïdale ou de son expression. Donc, d'une manière générale, une fonction sinusoïdale telle que nous, on l'utilise, on va l'utiliser dans le cours d'électricité, c'est S de T égale à Sm cosinus d'oméga T plus phi. Alors, donc, on va détailler chacune des grandeurs. Donc, S de T, c'est ce qu'on appelle la valeur instantanée. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans les énoncés, hein, déterminer la valeur instantanée d'un courant, d'une tension, etc. Donc ça veut dire que c'est cette expression-là qu'il faut déterminer. Sm, c'est ce qu'on appelle la valeur maximum, ou bien la valeur crête, ou encore, dans d'autres ouvrages, on l'appelle aussi l'amplitude du signal. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la pulsation. Donc c'est simplement le rapport entre 2π divisé par la période, ou bien on peut l'écrire aussi en fonction de la fréquence, c'est 2πf, donc c'est la pulsation, il s'exprime en radians seconde moins 1. Et enfin, la dernière chose, vous avez la phase, dite la phase à l'origine, c'est-à-dire quelle était finalement la valeur de la fonction s de t égale 0, et donc cette phase-là, elle est d'une manière générale définie par rapport à une sinusoïde de référence. Bon, donc on va voir ça un peu plus tard dans le détail, mais vous avez déjà, pour vous donner une idée, sur le graphe en dessous, vous avez donc une sinusoïde en rouge et une deuxième sinusoïde en bleu. Donc pour la sinusoïde en rouge, vous avez donc l'amplitude du signal qui varie entre plus Sm et moins Sm, et ça vient du fait que simplement la valeur du cosinus, elle est bornée, elle est comprise entre moins 1 et plus 1. Donc vous avez les valeurs maximales du cosinus qui vous donnent une valeur maximale pour S de T et valeur minimale de cosinus, c'est-à-dire moins 1, qui va vous donner pour S de T moins Sm. Alors, donc la courbe en bleu, vous voyez donc un signal qui est de plus faible amplitude et décalé. Donc vous voyez que les deux sinusoïdes sont décalées. Et bien le décalage, si je prends la sinusoïde en rouge comme référence, et bien on va dire que la courbe en bleu est déphasée ou décalée d'une certaine phase phi. Et on verra comment on peut déterminer la valeur de ce déphasage. Bien, alors donc on va passer à la diapositive 6. Alors, donc, pour résumer, donc on a vu que la valeur moyenne pour une grandeur sinusoïdale puisqu'il s'agit d'un signal qui est bidirectionnel symétrique, donc elle est forcément nulle. Donc la valeur moyenne, on ne la fait jamais intervenir lorsqu'il s'agit d'étudier des grandeurs sinusoïdales. Et pour la valeur efficace, eh bien on peut montrer que cette valeur efficace, elle est égale à l'amplitude ou la valeur maximale divisée par racine de 2. Alors donc en dessous, vous avez la démonstration de cette relation. Alors, donc, en partant de la définition de la valeur efficace, donc, on va élever au carré l'expression de S de T. Donc, vous voyez ici, Sm carré cosinus d'oméga T plus phi au carré. Alors, donc, vous pouvez essayer de refaire ce calcul-là si vous le souhaitez. Alors, donc, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir déterminer la primitive de la fonction, eh bien, il faut d'abord faire une transformation trigonométrique que je vous donne ici en rappel, à savoir qu'on peut écrire que le cosinus carré de x, eh bien, c'est égal à 1 plus cosinus 2x sur 2. D'accord ? Donc cosinus x au carré est égal à 1 plus cosinus 2x sur 2. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Par identification, donc on va dire que x, c'est rien d'autre que oméga t plus phi. D'accord ? Donc ici, le cosinus de oméga t plus phi au carré, eh bien c'est égal à 1 plus cosinus de 2x, c'est-à-dire de 2 fois oméga t plus phi divisé par 2. Et ensuite, c'est du calcul, hein, vous pouvez essayer de refaire ça. Donc le point principal, c'est que vous, quand vous avez une somme, donc on peut diviser ou peut séparer cette intégrale en deux intégrales, l'une sur 1 demi dt et puis le reste cosinus de 2 oméga t plus phi sur 2 dt, donc c'est ce qui est fait. Et donc en fait la deuxième intégrale sur le cosinus de 2 fois oméga t plus phi sur une période, c'est comme si c'était une fonction périodique, donc avec un signe, c'est un signal bidirectionnel symétrique, donc la primitive va vous donner 0. Donc du coup, la seule chose qui nous reste, c'est l'amplitude carré, Sm, divisé par 2. D'où donc la démonstration, à savoir que la valeur efficace pour un signal de type sinusoïdal, c'est l'amplitude maximale divisée par racine de 2. Ou bien on peut écrire l'amplitude maximale comme étant égale à la valeur efficace que multiplie racine de 2. Alors donc cette valeur efficace, on voit bien que c'est une constante indépendante du temps, donc qui va nous permettre de caractériser un signal. Donc on voit très bien qu'elle dépend directement de l'amplitude de notre signal S de T. Alors, donc, une remarque importante, eh bien, on préfère, justement quand on va manipuler les grandeurs en tension et courant, automatiquement faire apparaître cette valeur efficace, puisque c'est elle qui va nous permettre de comparer, de faire des sommes, des soustractions, etc. Donc on va préférer réécrire l'expression de tout à l'heure en substituant Sm, qui était l'amplitude, par justement S efficace racine de 2 cosinus d'oméga t plus phi. Donc retenez bien que d'une manière générale, eh bien l'expression des tensions et des courants va être toujours sous la forme valeur efficace que multiplie racine de 2 que multiplie le cosinus de oméga t plus phi. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Donc ici, j'ai pris cet exemple-là pour vous montrer justement l'effet de la phase à l'origine. Donc ici, je compare deux sinusoïdes. Vous voyez, c'est la même expression. Donc en bleu, c'est S de t égale à 10 cosinus de oméga t simplement. Donc vous avez une phase 0. Et donc on voit bien que sur le graphe, lorsque t égale 0, le cosinus vaut 1 et donc S de t vaut 10. D'accord ? Donc vous voyez qu'à t égale 0, S de t vaut 10. Maintenant, si on prend en marron ou orange, S de t égale à 10 cosinus d'oméga t plus pi sur 4. Donc c'est la même amplitude, sauf que au niveau de la phase, vous avez un plus pi sur 4 qui vient s'ajouter. Et donc vous voyez que les deux sinusoïdes finalement sont décalés. Et vous voyez que le décalage, comme l'indique la petite flèche rouge, il est plutôt vers la gauche. Alors donc on va dire que si vous avez une phase qui est positive, ben donc ça voudrait dire que la sinusoïde en question est en avance de plus pi sur 4 par rapport à S de t. Alors cette notion d'avance, comment on la comprend? Donc en fait, si je prends par exemple le moment où les deux courbes bleues et orange traversent l'axe horizontal, donc si je prends par exemple à partir de 0, donc vous voyez que la courbe orange, elle va passer à 0 avant la graduation 50, alors que la courbe bleue, elle va passer à 0 juste avant la graduation 100. Donc le raisonnement, il est très simple. On va dire, lorsque les deux courbes diminuent, sont décroissantes, quelle est, donc en gardant en tête que l'axe horizontal représente le temps, quelle est celle qui passe à 0 en premier? Et donc on voit bien que dans ce cas, c'est la courbe orange qui passe d'abord à 0 en premier, et ensuite derrière vient l'intersection de la courbe bleue avec l'axe horizontal. Et on peut faire exactement le même raisonnement sur la phase croissance, donc repassage depuis le minimum et passage à 0. Et on voit bien que la courbe orange, elle passe entre 200 et 250 en premier, et la courbe bleue arrive un peu plus tard et elle passe entre 250 et 300. Donc la courbe orange est en avance par rapport à la courbe bleue. Donc quand vous avez un déphasage qui est positif, eh bien ça voudrait dire que votre signal, comparé à un signal de référence, ici par exemple en bleu, eh bien ça voudrait dire qu'il est en avance. D'accord? Voilà, donc on parle de S de t est en avance de plus pi sur 4 par rapport à S de t en bleu. Bien, alors donc on passe à la diapositive suivante. Alors donc tout à l'heure je vous disais que dans l'expression de Fourier, la somme de deux voire plus de sinusoïdes reste une sinusoïde. Donc ici, j'ai fait la somme de la courbe bleue et de la sinusoïde orange, et en rouge vous avez la somme des deux. Donc vous voyez que, et même si j'avais mis 5, 6, 7, voire plus de sinusoïdes, eh bien vous verrez que la somme restera toujours une sinusoïde. D'accord? Voilà, donc ça c'est important. Alors, donc on va passer à la diapositive suivante. Bien, alors, donc on va parler maintenant de la représentation pratique de grandeur sinusoïdale. Alors, donc, on va y aller doucement. On va d'abord revenir sur quelque chose que vous avez déjà vu, à savoir le mouvement circulaire. Donc, on va dire qu'il y a un point M repéré par le vecteur position OM que vous avez sur la figure en bas à gauche, de module constant. Donc, ça veut dire que le point M tourne autour d'un cercle, hein, puisque OM représente le rayon du cercle. Donc, en coordonnées polaires, j'imagine que vous les avez vues. Donc sinon, ben, les coordonnées polaires, en fait, ρ désigne la distance du point M à l'origine, et φ, c'est l'angle tel qu'indiqué en bleu, c'est-à-dire l'angle entre l'axe horizontal et le vecteur OM. Donc le point M est animé d'un mouvement circulaire uniforme, et dans la vitesse angulaire, donc la vitesse angulaire, ça s'entend le nombre de degrés par seconde ou bien le nombre de radians par seconde. Donc si vous multipliez par un temps, ça vous donne un angle. Donc la notion de vitesse angulaire, c'est de quel angle je tourne par seconde. D'accord? Alors, donc si on suppose que cette vitesse angulaire, elle est constante, eh bien, un peu comme on a défini dv sur dt pour une vitesse, concernant une distance parcourue, donc sous la forme de dx sur dt, ben donc ici la vitesse angulaire c'est dφ sur dt, et c'est en radians par seconde. Alors donc on suppose que le point M se trouve à M0 à l'instant t égale 0. Donc le point M à l'origine, à t égale 0, juste avant de démarrer le mouvement circulaire de rotation, eh bien il se trouvait à la position M0, et on va supposer que justement le vecteur OM à t égale 0 ou en M0 fait un angle indiqué ici en rouge grand phi avec l'axe horizontal. Alors donc les coordonnées du vecteur OM en polaire, elles sont données par l'expression OM égale à ρ cosinus phi, donc EX c'est le vecteur unitaire suivant l'axe horizontal, et ρ sinus phi EY, EY étant le vecteur unitaire suivant l'axe vertical. Donc, en coordonnées polaires, ρ donne la distance du point M à l'origine, donc c'est directement le module du vecteur OM, c'est la longueur du vecteur OM, et à partir de la relation oméga égale à dφ sur dt, on peut écrire que dφ est égal à oméga dt. Et donc à partir de là, si j'intègre cette égalité dφ égale à oméga dt, si j'introduis le signe intégral de part et d'autre, donc d'un côté l'intégrale ou la primitive de dφ c'est φ, et la primitive de oméga dt, oméga étant une constante, donc il me reste simplement oméga intégrale de dt, et l'intégrale de dt c'est t, comme c'est une primitive, j'ajoute une constante, et il se trouve que cette constante, elle vaut phi, puisque à t égale 0, eh bien, le point M se trouve en M0. Et donc phi à t égale 0, eh bien, il doit être égal à grand phi. D'accord? Donc du coup, je peux écrire le vecteur OM en remplaçant ρ et φ par module de OM et le cosinus d'oméga t plus φ. Alors donc, si je m'intéresse maintenant aux coordonnées que vous connaissez mieux, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes, eh bien le point M, les deux projections orthogonales, vous donnent pour x module, donc c'est x ex plus y ey. Et donc les coordonnées x du vecteur OM, eh bien c'est égal donc au module de OM que multiplie le cosinus d'oméga t plus phi. Et pareil pour y, c'est OM sinus d'oméga t plus phi. Et donc vous voyez qu'il y a une similitude entre cette écriture-là et puis ce qu'on a vu précédemment, à savoir s de t est égal à sm cosinus d'oméga t plus phi, ou bien s de t égal à sm sinus d'oméga t plus phi. Donc finalement, notre signal s de t peut être vu comme la composante, soit x de t, soit y de t, d'un vecteur om tournant avec une certaine vitesse angulaire oméga et présentant une certaine phase à l'origine. D'accord? Donc la conclusion, c'est de dire que l'abscisse x de t ou l'ordonnée y de t d'un vecteur tournant OM à vitesse angulaire constante oméga sont des fonctions sinusoïdales d'amplitude, la longueur du vecteur OM, et de phase à l'origine, phi, en fonction des conditions initiales. D'accord? Donc, les fonctions sinusoïdales peuvent être comprises comme une des composantes d'un vecteur OM tournant, d'accord, à vitesse angulaire constante. Alors, donc on passe à la diapositive suivante, la 10. Donc, Partant de ce constat, Fresnel propose de représenter, finalement, toute fonction sinusoïdale par un vecteur tournant. Donc, ce qu'on appelle la représentation de Fresnel ou le diagramme de Fresnel, c'est simplement un outil graphique permettant d'ajouter, de soustraire, de dériver, d'intégrer des fonctions sinusoïdales. La seule condition, c'est qu'il faut qu'elles soient de même fréquence. Alors donc en physique, il y a de nombreuses grandeurs peuvent être des fonctions sinusoïdales du temps ou de l'espace, qui sont donc le courant, les tensions, les puissances. Donc par analogie, entre donc ce qu'on a vu dans la diapositive précédente, si on choisit comme module de OM égale à SM, c'est-à-dire l'amplitude de ma sinusoïde, ou bien si je choisis la longueur du vecteur OM comme étant égale simplement à la valeur efficace, et en prenant pour oméga égale à 2πf qui est la fréquence de mon signal, eh bien, je peux représenter ma fonction sinusoïdale par un vecteur tournant. Et la seule chose dont j'ai besoin, c'est de le représenter à t égale 0. Donc c'est ce qui est fait sur le schéma de droite. Donc j'ai un axe qui représente l'origine des phases, c'est-à-dire qu'ici, horizontalement, si le vecteur est aligné, donc ça veut dire que grand phi égale 0, et bien sinon phi est quelconque. Et la longueur du vecteur ici, suivant les besoins, donc ça va représenter soit l'amplitude de ma sinusoïde, ou bien sa valeur efficace. D'accord ? Et donc ce vecteur-là, il ne faut pas oublier, c'est un vecteur tournant. Donc je le représente simplement à t égale 0. Et ensuite, je sais que par la suite, eh bien simplement, je rajoute un angle supplémentaire. Donc si vous regardez sur la figure de gauche, donc en bleu, c'est l'angle tournant. Donc le vecteur va commencer à tourner avec le point M qui décrit le cercle. Et l'angle phi, il va s'incrémenter à raison de oméga t plus phi. Et à chaque instant, la projection sur l'axe horizontal, qui est donc en coordonnées cartésiennes x de t, en réalité, c'est quoi ? Ben, ça va être s de t, sm cosinus d'oméga t plus phi. Donc je peux à tout moment déterminer la valeur de mon signal S de T, la valeur instantanée, grâce justement à la représentation de ce vecteur-là. Mais nous, on ne va pas vraiment l'utiliser dans ce sens-là, hein, puisqu'on a dit les valeurs instantanées, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. On va essentiellement se concentrer sur les valeurs efficaces, puisque les valeurs moyennes sont nulles dans le cas d'un signal sinusoïdal. Donc si S de T représente une tension sinusoïdale, eh bien on écrira simplement que la tension sinusoïdale U de T, c'est égal à la valeur max UM que multiplie donc le cosinus d'oméga T plus phi. Ou bien, si on choisit de faire apparaître explicitement une grandeur constante qui est la valeur efficace, donc on va remplacer UM par UF, racine de 2, et ensuite le cosinus d'oméga t plus phi. Et si S de t représente un courant sinusoïdal, ben donc on va simplement l'écrire, I de t égale la valeur max, ou l'amplitude, cosinus d'oméga t plus phi, ou bien en faisant apparaître la valeur efficace du courant, alors à ce moment-là, donc c'est valeur efficace que multiplie racine de 2 et cosinus d'oméga t plus phi. Voilà, donc on va passer à la diapositive suivante, la numéro 11. Donc je prends l'exemple ici, d'une série de dipôles parcourus par un courant variable, donc I de T. Donc aux bornes de chacun de ces dipôles, bon, pour l'instant je ne dis pas qu'est-ce que c'est, mais simplement on voit qu'aux bornes de ces dipôles on va avoir donc des différences de potentiel U1, U2, U3 qui sont donc des fonctions de type sinusoïdal. Alors donc en encadré en rose, donc la loi d'Ohm et la deuxième loi de Kirchhoff. Donc la loi d'Ohm, c'est U égale RI, et la deuxième loi de Kirchhoff, c'est l'additivité des tensions, hein, donc entre A et B. la tension UAB, c'est simplement égal à la somme des tensions entre A et M, plus la tension entre M et N, plus la tension entre N et B, qu'on réécrit simplement sous la forme UAB égale à U1 plus U2 plus U3. Alors donc si je prends l'exemple donc, de trois tensions dont je vous donne les expressions, donc la première c'est 5 racine de 2 cosinus de 3t plus pi sur 2, et dans le petit tableau on identifie à chaque fois les grandeurs qui vont nous intéresser. Donc pour chacune de ces trois tensions, donc on relève la valeur efficace, donc 5 volts pour U1, 3 volts pour U2, et pour U3, vous avez simplement racine de 2, mais c'est simplement c'est parce que vous avez le facteur 1 qui est devant, donc la valeur efficace vaut 1 volt. Pour la phase, donc il suffit simplement de relever la valeur de phi, donc plus pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés pour le premier, moins 45 pour le deuxième, et moins 30 pour le troisième. Voilà. Donc à partir des expressions temporelles de ces tensions-là, on est capable d'identifier la valeur efficace et la phase à l'origine. Alors donc maintenant, on sait que la somme de trois sinusoïdes reste encore une sinusoïde. Donc cette nouvelle sinusoïde, ce qu'on ne connaît pas, c'est sa valeur efficace, donc que je vais appeler ici UAB, et le déphasage qu'on a appelé phi. Donc on avait dit que la somme des sinusoïdes est une sinusoïde à condition de garder les mêmes fréquences. Donc vous voyez que la pulsation ici, elle vaut 3, oméga égale à 3, et pour les trois fonctions, et donc aussi pour la fonction somme. Donc alors si on reprend l'idée de la représentation de Fresnel, donc de ces trois vecteurs-là, je vais garder donc deux informations importantes. C'est soit la valeur efficace ou la valeur max, et puis la phase à l'origine. Bien, alors donc, ce qui est représenté ici, donc vous voyez tout en bas, donc d'abord horizontalement, vous avez l'axe origine des phases. D'accord ? Donc ici, tout vecteur qui serait collinéaire avec cet axe-là aurait une phase qui est égale à 0. Donc si je prends la première tension, U1, donc j'ai une valeur efficace de 5 volts. Alors donc si vous regardez sur votre droite, j'ai mis une échelle. Donc moi j'ai mis une échelle sur PowerPoint, hein. Donc j'ai pris 1 volt et 1 cm, donc ma flèche elle fait 5 cm de longueur. Et donc je l'ai dessiné avec un angle, donc on tourne dans le sens trigonométrique, de plus 90 degrés. D'accord ? Donc c'est le vecteur noir U1, de longueur 5 cm, et de phase à l'origine de 90 degrés. Donc il est perpendiculaire à l'axe des origines des phases. Ensuite, donc le deuxième vecteur, c'est U2. Donc vous voyez que U2, il a pour longueur 3 volts, donc ça veut dire 3 cm. Et il a comme phase moins 45 degrés. Donc je vais dans le sens contraire du sens trigonométrique. Alors, donc comme le vecteur UAB, c'est la somme des vecteurs U1 plus vecteur U2 plus vecteur U3. Donc ce que je vais faire, c'est un petit peu comme la géométrie que vous avez vue au lycée. Si vous additionnez plusieurs vecteurs, eh bien, donc, vous prenez le premier. Ensuite, à partir de l'extrémité du premier, vous rajoutez le suivant et ainsi de suite. Donc c'est ce qui est fait ici. Donc l'origine du vecteur U2 va coïncider avec l'extrémité du vecteur U1. Et par rapport à l'horizontale, donc il est décalé d'une phase de moins 45 degrés. Voilà, donc vous avez ici donc maintenant le vecteur U1 plus U2. Et ensuite, vous avez en plus à sommer le vecteur U3. Donc lui, en longueur, il fait 1 cm, puisque c'est 1 volt. Et il est déphasé, pareil, négatif, donc sens contraire du sens trigonométrique, de moins 30 degrés. Et donc lui, il va partir de l'extrémité du vecteur U2. D'accord ? Et donc finalement, le vecteur somme, c'est simplement celui qui va relier l'origine du vecteur U1 à l'extrémité du vecteur U3. Donc c'est le vecteur, vous voyez ici en rose, UAB. Donc je l'ai ajusté, ajusté pour que ce vecteur-là soit de la bonne longueur. Donc moi j'ai trouvé 3,82 cm. Donc avec mon échelle, ça me fait 3,82 volts. D'accord ? Donc c'est par construction graphique. Hein. Et l'angle ici, donc je l'ai mesuré aussi avec un rapporteur. Et donc je trouve environ 39 degrés. Voilà. Donc la somme de ces trois tensions, d'après donc la représentation de Fresnel, il suffit simplement de faire cette construction graphique des vecteurs. Donc en l'occurrence ici, j'ai pris des valeurs efficaces. Et donc finalement, je détermine de cette manière-là la valeur efficace de la tension somme, qui est UAB, donc 3,82 volts. Et en même temps, je détermine la phase à l'origine. Et là, elle est positive, puisqu'elle est au-delà de l'axe origine des phases, et puis dans le sens trigonométrique. Donc plus 39 degrés. Voilà. Donc la construction de Fresnel permet d'obtenir finalement les caractéristiques, en l'occurrence ici, de la tension somme, en précisant sa valeur efficace et sa phase à l'origine. Alors donc on va passer à la diapositive 12. Alors donc maintenant, on va comparer la rapidité et l'efficacité de la méthode de Fresnel, la représentation de Fresnel, par rapport à un calcul classique dans lequel, ben, simplement, je vais déterminer la tension UAB, qui est la somme de ces trois sinusoïdes. Donc c'est ce qui est fait ici. Et le but est pédagogique, c'est de vous montrer que, ben, entre les deux, vous avez quand même... Enfin, vous allez voir si laquelle des deux est plus simple à manipuler. Donc, à partir de la première ligne, donc je précise que je cherche donc la fonction somme avec donc la valeur efficace grand U AB et la phase à l'origine phi, qui est égale donc à la somme des trois sinusoïdes que vous avez vus. Bien, alors donc ici, il va falloir décomposer donc les fonctions cosinus sous la forme de cosinus A plus B égale à cos A cosinus B moins sinus A sinus B. Donc chacune de ces fonctions va donner, comme vous le voyez, donc pour la première sur votre gauche, cosinus 3t cosinus phi moins sinus 3t sinus phi. Et ensuite, il faut faire la même chose pour les fonctions U1, U2 et U3. Alors ensuite, le but, c'est d'avoir de part et d'autre des fonctions cosinus de 3t et sinus de 3t avec une mise en facteur de part et d'autre. Donc, c'est ce qui est fait juste avant donc l'accolade, les systèmes d'équations. Donc la première partie, donc c'est-à-dire l'équation sur la gauche du signe égal, donc vous avez cosinus 3t cosinus phi fois UAB moins sinus 3t sinus phi UAB égale. Et donc ici on a j'ai rassemblé l'ensemble des coefficients qui apparaissent, puisque bon, on peut déterminer le cosinus ou le sinus de pi sur 2, moins pi sur 4 et moins pi sur 6. Et donc j'ai à ma droite cosinus 3t qui est fonction de 3 racines de 2 sur 2 plus racine de 3 sur 2, et sinus de 3t qui est facteur de moins 5 plus 3 racines de 2 sur 2 plus 1/2. Donc pour que ces deux cette égalité soit vérifiée, eh bien, il faudrait que les coefficients qui sont devant cosinus 3t et sinus 3t soient identiques, soient égaux, pardon. Et donc par identification, eh bien, le coefficient qui est devant le cosinus 3t, c'est cosinus phi UAB à gauche, et à droite, eh bien, c'est 3 racine de 2 sur 2 plus racine de 3 sur 2. Et pour donc la deuxième condition, il faudrait que moins sinus phi UAB doit être égal à donc à au coefficient qui est devant sinus 3t, qui est moins 5 plus 3 racine de 2 sur 2 plus 1 demi. D'accord? Que j'ai modifié un petit peu ici pour avoir une fraction un peu plus sympathique. Alors donc, ce que l'on fait, donc vous voyez, on obtient un système d'équations avec deux inconnus. Donc les deux inconnus, c'est phi et UAB. Bon, donc ici, j'ai oublié de mettre UAB en couleur pour garder en tête les deux variables qu'on cherche à déterminer. Donc, ce que je peux faire, comme c'est un système à deux inconnus, bon, j'ai deux équations, donc normalement, je dois pouvoir y arriver. Eh bien, ce que je fais, c'est j'élève au carré les deux équations, et ensuite, je fais la somme. De cette manière-là, je vais avoir un cos carré phi plus sinus carré phi. Or, ça, je sais que c'est une identité, ça fait 1. Donc, par équivalence, donc c'est ce qui est fait, on élève au carré. Et ensuite, on fait la somme. Donc, en faisant la somme, il ne nous reste plus que UAB carré. Donc, qui est égal. Et donc, le reste est élevé au carré. Et après simplification, donc on arrive au résultat UAB égal à 3,818 volts. D'accord? Maintenant, pour déterminer l'angle phi, je peux prendre l'une ou l'autre des deux équations du premier système. Donc en l'occurrence ici, j'ai pris le cosinus phi. Donc, ben, comme vous le voyez, hein, cosinus phi, c'est égal donc à la constante 3 racine de 2 plus racine de 3 sur 2, divisé par l'amplitude efficace UAB. Et donc en faisant ça, j'arrive donc à 0,782 et arc cosinus avec votre calculatrice, on arrive à l'angle de 38,51 degrés. Alors faites très attention, la calculatrice, parfois, si vous ne faites pas attention, elle peut se retrouver en mode gradient. Et en mode, pardon, radian. Et dans ce cas-là, le résultat que vous allez obtenir, elle va être très différent. Mais simplement, vous avez exprimé l'angle en radian. D'accord? Donc vérifiez bien que votre calculatrice est en mode degré. Bon, alors, donc ici, si vous refaites le calcul, vous allez voir quand même que c'est assez long. Hein, et puis les sources d'erreur sont assez importantes. Donc après un calcul, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'après un calcul lent et fastidieux, on arrive certes à des résultats certainement plus précis, hein, là il n'y a pas de doute, que l'extraction graphique de Fresnel. Mais si vous regardez maintenant l'écart qu'on obtient entre la valeur efficace et la phase, eh bien pour la phase, on est à 0,5 degré près, hein, tout à l'heure on avait vu à peu près 39. Et pour la valeur efficace, eh bien, la longueur du vecteur avec l'échelle, j'en étais à 3,82, et ici on est à 3,818, c'est-à-dire un écart de 0,002 volts. Donc vous voyez que c'est quand même, ça reste quand même assez précis, du moment qu'on soigne bien sa représentation graphique des vecteurs de Fresnel. Et puis, entre les deux, franchement, il faut dire ce qu'il en est. Dans la représentation de Fresnel, c'est beaucoup plus simple de tracer un vecteur et un angle. Il suffit juste d'avoir une bonne équerre et un bon rapporteur. Et puis, vous avez immédiatement les résultats. Alors, donc, on peut imaginer aussi, si vous devez maintenant avoir une maille avec 7 ou 8 tensions, vous imaginez la complexité du calcul analytique tel qu'on vient de le faire, en comparaison avec simplement représenter chacun des vecteurs. Alors donc on va passer à la diapositive suivante, la 13. Alors donc maintenant je reviens sur un cas pratique de mesure d'un déphasage entre deux grandeurs sinusoïdales qui sont évidemment de même période. Donc, comment vous pouvez faire ça en salle de TP à l'aide d'un oscilloscope? Donc, on va prendre deux signaux. Donc, le premier que vous voyez ici en bleu, il a une certaine valeur efficace, racine de 2, cosinus de oméga t. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de phase à l'origine, phi égale 0. Donc d'une manière générale, quand vous avez phi égale 0, c'est le signal de référence. Et donc dans la représentation, comme on l'a vu, de Fresnel, donc je vais avoir un vecteur de longueur S1, qui est la valeur efficace, et ce dernier, il est collinéaire avec l'axe origine des faces. D'accord ? Il est collinéaire, puisque on a pris, par définition, une phase égale à 0. Ensuite, vous avez le deuxième signal S2 de T, qui est égal à valeur efficace racine de 2, cosinus d'oméga T plus phi. Et donc, on appelle S2 la valeur efficace. Donc, si vous avez à votre écran d'oscilloscope donc les deux courbes, donc vous avez la courbe bleue que vous allez prendre comme référence, donc c'est le point M1, et la courbe en orange M2, et vous cherchez à déterminer l'angle entre ces deux sinusoïdes. Alors donc, pour faire ça, eh bien donc, il va falloir dans un premier temps repérer, donc vous voyez ici grand X sur l'écran, c'est la longueur d'une période. Donc cette longueur X, ça peut être des centimètres, ça peut être aussi des millisecondes. Hein. Si vous voulez prendre un carreau, c'est X millisecondes. Ou bien si vous voulez prendre un carreau égal à un centimètre. D'accord ? Donc grand X représente la longueur sur une période du signal. Et petit X représente l'écart entre les deux signaux, entre les deux sinusoïdes. Petit X. Eh bien, la valeur du déphasage, elle est donnée par l'expression qui est indiquée tout en bas, donc soit en radians, soit en degrés, qui est simplement le rapport petit x sur grand x multiplié par 360 degrés. Et à ce moment-là, vous obtenez l'écart ou la phase entre les deux sinusoïdes. Alors donc, pour déterminer le signe, eh bien, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous regardez, par exemple, autour de petit x, quel est le signal qui remonte en premier et quel est celui qui remonte juste après. Donc, on voit que le signal bleu remonte entre 250 et 300. D'accord ? Donc, c'est lui qui passe à 0 en premier. Alors que le signal orange, il traverse donc le 0 en remontant au point 300. D'accord ? Donc il est en retard. Donc le S2 est en retard par rapport à S1, ou bien S1 est en avance par rapport à S2. Et donc si le signal S2 est en retard, puisqu'il passe après à 0, après le bleu, donc si c'est après, c'est un retard qui est négatif. Et donc c'est la raison pour laquelle, vous voyez, sur le diagramme de Fresnel, phi représenté négatif, et donc le vecteur de Fresnel représentant donc le signal S2, de valeur efficace S2, est donc placé avec un déphasage phi vers le bas. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez de toute façon reprendre en TP pour mesurer vos déphasages. Donc ça permet, c'est une technique qui permet à la fois de relever le déphasage entre deux tensions, mais également de dire quelle est celle qui est en avance ou quelle est celle qui est en retard. Donc vous pouvez donner un signe à votre déphasage. Bien, alors donc on va passer à la diapositive suivante, la 14. Bien, alors donc la représentation de Fresnel, c'est très bien, mais on voit très bien qu'il faut il faut une équerre, un crayon, une gomme, plus un rapporteur pour pouvoir tracer tout ça. Et donc pourvu que vous avez un crayon qui est mal taillé ou un rapporteur que vous utilisez mal, donc automatiquement ça va se répercuter sur la valeur finale de la tension que vous cherchez. Et donc on va parler d'incertitude. Donc l'incertitude sur la valeur efficace et sur la phase que vous allez déterminer, eh bien, elle va être entachée d'erreurs. Alors, donc, il y a une autre possibilité tout aussi simple de déterminer donc la somme de plusieurs sinusoïdes, qui est la méthode dite basée sur la représentation complexe d'une grandeur sinusoïdale. Alors, donc, comment revenir à un calcul analytique avec des fonctions sinusoïdales? Donc, en reprenant la même idée de Fresnel, à savoir représenter une fonction sinusoïdale comme une composante d'un vecteur tournant, OM, eh bien, si je change les axes X et Y par l'axe des réels et l'axe des imaginaires, je vais définir donc pour le point M la fixe complexe Z. Eh bien, cette affixe-là, elle va s'écrire, donc, si vous regardez la ligne qui est juste en dessous des deux graphes, si Z est l'affixe du point M de coordonnées XY, donc dans le plan complexe, on écrira simplement que Z est égal à X plus II. Donc I, c'est le nombre imaginaire pur, I carré égale à moins 1. Alors, donc, si maintenant je fais apparaître l'angle phi sur votre, toujours dans le repère complexe, dans le plan complexe, si je fais apparaître l'angle phi, Z, c'est le module du vecteur OM. D'accord ? Donc, on peut aussi écrire Z sous la forme OM cosinus phi, la projection horizontale, plus I sur l'axe imaginaire OM sinus phi. Où OM donc représente simplement la longueur du vecteur OM, ou bien le module de Z. Donc, le vecteur de Fresnel OM précédent, représenté dans l'espace complexe, est l'image du nombre complexe Z égale à OM cosinus phi plus IOM sinus phi. Donc, je peux mettre OM en facteur et faire apparaître donc la quantité cosinus de oméga t plus phi plus i sinus de oméga t plus phi, en prenant comme tout à l'heure phi égale à oméga t plus un certain déphasage. Donc ici j'aurais dû écrire grand phi hein, au lieu d'écrire petit phi. Alors donc, si maintenant on dit que OM est égal à SM, c'est-à-dire soit le maximum ou la valeur efficace, donc je peux écrire mon nombre complexe sous la forme de SM cosinus d'oméga t plus phi plus I sinus d'oméga t plus phi. Et donc, si j'écris Z sous cette forme-là, eh bien, je peux dire que mon signal S de t de tout à l'heure, donc ma fonction sinusoïdale, c'est simplement la partie réelle de Z. Donc vous voyez que Z a une partie réelle écrite en cosinus de oméga t plus phi et une partie imaginaire écrite en sinus de oméga t plus phi. Donc si vous prenez uniquement la partie réelle de Z, eh bien vous retombez sur l'expression de notre fonction sinusoïdale SM cosinus d'oméga t plus phi. Voilà, donc il est possible de représenter une fonction sinusoïdale par un nombre complexe et de dire simplement que cette fonction sinusoïdale, c'est la partie réelle de notre nombre complexe. Donc c'est la logique qu'on va étayer par la suite et utiliser par la suite. Donc notation en électricité. Alors, donc pour éviter la confusion avec le courant I, petit i, avec le nombre imaginaire pur, petit i, donc ce que l'on fait, on va simplement remplacer petit i par j, et on va dire, donc j va jouer le même rôle que le i que vous connaissez, et on va dire que j carré est égal à moins 1. Ça c'est d'une part. Donc d'autre part, on remplace le nombre complexe z par S avec une barre en dessous, S de T. Et donc ça, c'est pour faire la différence cette fois-ci. Donc au lieu de manipuler le nombre Z, on va plutôt manipuler la variable s de t, mais avec une barre en dessous, ce qui permet de la différencier de la fonction sinusoïdale s de t. Donc s avec un trait en dessous, c'est un nombre complexe, d'accord? Si vous prenez la partie réelle de ce nombre complexe, vous tombez sur s de t, l'expression réelle. Donc on passe à la diapositive suivante. Donc en résumé, tout signal, toute fonction sinusoïdale peut être représentée par un nombre complexe s bar de t égale à sm, avec un cosinus d'oméga t plus phi plus j sinus d'oméga t plus phi. Donc pour retrouver notre fonction sinusoïdale, il suffit de prendre la partie réelle. Et donc, comme le montre dans l'encadré en rouge, la partie réelle de S bar de T, c'est la fonction sinusoïdale de départ. Alors, si on cherche à déterminer l'amplitude de notre signal ou la valeur maximale, eh bien, il suffit simplement de déterminer le module du nombre complexe S bar de T. Donc, vous voyez que si on calcule le module de ce nombre complexe, donc le détail est donné ici, eh bien c'est simplement égal à sm, puisque sinus carré plus cosinus carré vaut 1. Et enfin, pour déterminer le déphasage, ou la phase à l'origine, eh bien c'est simplement l'argument du nombre complexe s de t, et si vous regardez bien le dessin de la diapositive numéro 14, si vous déterminez la valeur de tangente phi, vous allez voir que c'est la partie imaginaire de z sur la partie réelle de z. Donc comme z ici est représenté par s bar de t, donc c'est simplement la partie imaginaire de s de t sur la partie réelle de s de t. D'accord? Donc finalement, si vous faites ça, vous retombez sur sinus d'oméga t plus phi divisé par cosinus de oméga t plus phi. Et donc ça vous donne la valeur. Alors oui, ici il y a une petite erreur en fait. Phi n'est pas l'argument de s de t, mais d'autres choses qu'on va voir juste après. C'est de ce qu'on appelle l'amplitude efficace complexe. Donc cette ligne-là, il y a une petite erreur. Donc c'est bien la partie imaginaire sur la partie réelle, mais pas de S bar de T. Donc ça, il va falloir, voilà, je vais vous le préciser par la suite, comment est-ce qu'on détermine le déphasage phi. Sinon ici, on va arriver à tangente de oméga T plus phi. D'accord? C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est phi, et donc c'est pas la partie imaginaire de S de T. On va corriger cette troisième ligne, elle n'est pas correcte, telle qu'elle est écrite. Alors, donc, d'autre part, on sait que exponentielle de iθ, il peut s'écrire sous la forme de cosθ plus i sinθ. Donc, le signal sinusoïdal en représentation complexe, S bar de t, tel qu'on l'a vu, peut très simplement s'écrire comme sm exponentielle de j, d'oméga t plus phi. Et si on développe l'exponentielle, donc on retrouve le cosinus d'oméga t plus phi plus j sinus de oméga t plus phi. Alors, donc, à partir de cette représentation exponentielle, d'accord, eh bien, notre signal s de t, on peut l'écrire soit en regroupant l'amplitude maximale sm et l'exponentielle de j phi en séparant notre exponentielle de j oméga t plus phi en exponentielle de j oméga t que multiplie exponentielle de j phi. Donc on sépare les exponentielles et il va nous rester donc sm exponentielle j phi exponentielle de j oméga t. Ou bien on peut remplacer sm, comme on l'a vu, par une valeur efficace que multiplie racine de 2. Donc je garde entre crochets la valeur efficace et la phase. Et je vais sortir du entrecrochet le racine de 2 et l'exponentielle de j oméga t. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien c'est à la ligne suivante, donc c'est pour définir deux nouvelles caractéristiques du signal s de t qu'on va désigner par grand S bar m et S avec une barre en dessous. Alors, donc, qu'est-ce que c'est? S bar M, c'est donc la valeur maximale de l'amplitude maximale du signal que multiplie exponentielle J-phi. Donc, c'est le premier crochet que vous voyez dans l'équation qui est juste au-dessus. Et ça, on l'appelle l'amplitude complexe. Et donc, on peut écrire le signal S de T bar sous la forme amplitude complexe que multiplie exponentielle de J oméga T. Dans la deuxième écriture, eh bien, donc c'est en haut, c'est la deuxième, c'est l'écriture la plus à droite. Donc exponentielle, c'est S efficace exponentielle J phi racine de 2 exponentielle J oméga T. Et donc, dans ces conditions, on peut écrire que S bar, on récupère la valeur efficace et l'exponentielle de J fois la phase. Et ça, ça porte le nom de l'amplitude efficace complexe. Donc, ne pas confondre les deux. Vous avez dans un cas, pour l'amplitude complexe, c'est l'amplitude qui apparaît, donc c'est Sm qui apparaît dans l'expression, alors que dans l'amplitude efficace, donc vous avez le mot-clé efficace, c'est la valeur efficace qui apparaît dans cette expression-là. Et donc, du coup, on écrira que S bar de T est égal à l'amplitude efficace complexe, S bar, racine de 2 et exponentielle de J oméga T. Donc, en pratique, on utilisera plutôt les amplitudes efficaces complexes. Donc, on va plutôt utiliser la deuxième écriture, c'est-à-dire que S est égal à S efficace exponentielle J phi. Et donc, vous voyez que là-dedans, j'ai rassemblé deux grandeurs importantes. Donc, on a dit, pour caractériser le signal, c'est la valeur efficace. Et ensuite, le déphasage par rapport à une certaine référence. Donc, dans l'amplitude efficace complexe, vous avez l'essentiel de l'information, c'est-à-dire la longueur de votre vecteur et la phase à l'origine. Donc, c'est exactement comme pour la représentation de Fresnel, où ce qui était le plus important, c'était la longueur du vecteur et puis la phase à l'origine. Sauf que ici, c'est écrit avec des nombres complexes. Alors, il existe une deuxième notation, dite phaseur, simplement pour ne pas écrire exponentielle de J phi. Donc, c'est l'écriture que vous voyez ici, dans S efficace. Donc, vous avez un angle aigu et vous mettez dedans la valeur de phi. Voilà. Donc, dans les exercices que vous allez rencontrer dans le fascicule des TD, vous allez avoir cette représentation-là. En fait, vous pouvez passer de cette représentation ou cette notation en phaseur vers une notation soit en exponentielle ou bien une notation en cos phi plus j sinus phi. D'accord ? Donc, vous avez toutes ces possibilités-là. Alors, donc on va passer à la diapositive 16. Donc, pour résumer un petit peu, donc ça c'est vraiment très nouveau pour vous, convention d'écriture adoptée pour la suite. Donc, vous voyez, donc, dans le tableau, j'ai rassemblé donc, à gauche c'est les différentes dénominations et à droite, vous avez les grandeurs qui sont associées. Alors, donc, l'écriture temporelle. Donc ça, c'est la valeur instantanée. Donc comme on l'a vu, c'était S de T égale à Sm cosinus d'oméga T plus phi pour une sinusoïde. Que l'on peut écrire aussi sous la forme, la valeur efficace, en la faisant apparaître, racine de 2 cosinus d'oméga T plus phi. Donc l'amplitude, ou bien la valeur maximale, c'est Sm. La valeur efficace, c'est SEFF. L'amplitude efficace complexe, donc est définie par S bar. Et là-dedans, on met la valeur efficace multipliée par l'exponentielle de J fois la phase. En notation phaseur, donc c'est la même chose. Et enfin, on peut définir l'amplitude efficace complexe conjuguée. Donc si je conjugue avec un trait cette fois-ci au-dessus de S, eh bien la valeur efficace est quand même c'est un réel, donc le conjugué, il ne se passe rien. Par contre, pour l'exponentielle, vous devez faire apparaître un signe moins. Donc la phase est précédée d'un signe moins si vous calculez le conjugué d'un nombre écrit en exponentielle. Et enfin, le vecteur de Fresnel associé, eh bien c'est un vecteur dont la longueur c'est soit l'amplitude ou bien dans la longueur c'est la valeur efficace. Alors donc un exemple pour fixer un peu les idées. Donc supposons que l'on ait une tension U de T qui s'écrit donc 100 volts cosinus de 5T plus pi sur 2. Donc 100 volts c'est la valeur maximale. Si je veux déterminer la valeur efficace, donc c'est 100 volts divisé par racine de 2, ça nous fait 70,71. Donc 70,71 fois racine de 2, vous retrouvez 100. D'accord ? Mais du même coup, du coup, ici, vous faites apparaître la valeur efficace qui est de 70,71 volts. Cosinus d'oméga t plus pi sur 2. Donc cette tension a pour amplitude maximale 100 volts, une valeur efficace de 70,61 et une phase de 90 degrés. Alors, donc, en représentation complexe, on écrira U de t égale à 70,71. Ici, il va falloir que vous rajoutiez racine de 2, je l'ai oublié. Donc il faut rajouter racine de 2 et que multiplie exponentielle de J 5T plus pi sur 2. Donc dans le document, je vais corriger ça et dans le PDF, normalement, j'aurai déjà rajouté le racine de 2. J'aurai corrigé ça. Et donc l'amplitude efficace complexe, donc on a dit, on rassemble là-dedans la valeur efficace, donc qui est de 70,71, et la phase qui est ici de pi sur 2. Et donc en notation phaseur, c'est donc l'amplitude efficace complexe avec la valeur efficace, le symbole angle aigu et plus pi sur 2. Donc on passe à la diapositive suivante. Donc, additivité des tensions et des courants. Donc là, maintenant, on commence. Donc, on a terminé un petit peu avec les représentations. Donc là, on va aller un peu plus loin dans l'utilisation soit de la représentation de Fresnel ou de la représentation en complexe. Donc, de l'additivité des tensions et des courants. Et donc, on va identifier le fameux signal S de T par soit une tension, soit un courant. Donc, toutes les lois que vous avez vues et qu'on a vues dans le cadre des circuits en courant continu sont applicables au régime variable. Donc, vous avez à la fois l'additivité des DDP à travers une maille, vous avez l'additivité des courants, donc la loi des nœuds est vérifiée, et les méthodes d'analyse de circuit que vous avez pu utiliser au cours du premier semestre, c'est-à-dire la méthode des mailles, la méthode des nœuds, le théorème de superposition. Alors peut-être vous n'avez pas vu le théorème de Thévenin ou de Norton, quoique je pense qu'on a fait un exercice dans lequel je vous ai montré comment fonctionne le théorème de Thévenin. Voilà, mais toutes ces méthodes d'analyse de circuit, elles restent vraies en régime variable. Donc les opérations qu'on doit faire sur les valeurs instantanées des grandeurs électriques, elles sont toutes remplacées par des opérations dans le cadre de la représentation de Fresnel par des vecteurs et soit de façon analytique ou algébrique avec la représentation complexe. Donc je reprends ici un peu le même exemple que précédemment. Donc avec trois dipôles en série, traversés par un même courant, faisant apparaître trois différences de potentiel. Donc on a vu dans la représentation de Fresnel, donc j'ai pris ici des exemples de valeurs efficaces grand U1, grand U2, grand U3 et de phase écrit tout en bas. J'ai considéré que par exemple Φ1 pouvait être négatif, Φ2 positif, Φ3 positif. Et donc la tension UAB globale va être simplement la somme de ces trois vecteurs U1 plus U2 plus U3, chacun avec la représentation en fonction de l'angle Φ1, Φ2 et Φ3. Voilà. Et donc graphiquement, on est capable de déterminer la valeur de UAB, au grand U ici, et avec un rapporteur, déterminer la valeur de Φ. Donc les expressions des tensions U1, U2, U3, peuvent être aussi considérées en représentations complexes. Donc chacune de ces tensions-là sera donc écrite en représentation complexe. Donc UAB bar égale à U1 bar plus U2 bar plus U3 bar. Et donc je sais que la somme de toutes ces tensions sinusoïdales, ça va être encore une tension sinusoïdale dont j'ignore la valeur efficace grand U et dont j'ignore la phase phi. Donc au lieu de travailler avec les valeurs instantanées ici, on peut parfaitement travailler directement avec les amplitudes efficaces complexes, c'est-à-dire que l'amplitude efficace complexe du signal somme est égale à la somme des amplitudes efficaces de chacun des amplitudes efficaces de chacun des dipôles. Et donc en notation amplitude efficace complexe, donc vous avez l'expression qui est ici en exponentielle, et puis vous avez la même chose en notation phaseur. D'accord ? Donc c'est U1 phi 1 plus U2 phi 1, phi 2 plus U3 phi 3. Alors donc on passe à la dernière diapositive pour aujourd'hui. Donc pour l'additivité des courants, ça va être la même chose. Donc on va supposer qu'on a dans un circuit donc trois courants de type alternatif, donc tous sous la forme valeur efficace racine de 2 cosinus de la pulsation fois le temps plus un certain déphasage, phi 1, phi 2 ou phi 3. Ensuite, sur le schéma tel qu'il est indiqué, vous avez le courant I1 qui arrive sur A, le courant I2 qui arrive sur A, le courant I3 qui arrive sur A, et le courant I qui, lui, est partant. Donc, la relation de Kirchhoff est vérifiée, la loi des nœuds. Donc, vous avez le courant I qui est égal à I1 plus I2 plus U3 en instantané. Et comme c'est des courants sinusoïdaux, je sais que le résultat de ça, ça va être encore une sinusoïde avec une certaine amplitude efficace grand I et un certain déphasage phi. Donc, en représentation de Fresnel, j'écris simplement les valeurs efficaces vectorielles, donc c'est des vecteurs dont la longueur c'est la valeur efficace. Et donc j'écris I vecteur égale à I1 vecteur plus I2 vecteur plus I3 vecteur. Et vous avez tout en bas la représentation de Fresnel, ça va être la même chose. Donc j'ai pris ici pour l'exemple des déphasages pour chacun des courants, phi1, phi2 et phi3, positif, négatif et positif. Et donc simplement, à partir du vecteur I1, vous rajoutez le vecteur I2 avec la bonne longueur et le bon angle, en faisant attention à la convention de signes pour c'est des angles orientés, donc suivant que vous êtes dans le sens trigonométrique ou opposé. Et par construction graphique, donc vous allez avoir le courant total grand I ici en rose et l'angle phi de déphasage de ce courant-là. D'accord ? Donc ça, c'est pour la construction par le diagramme de Fresnel. Sinon, après, eh bien, on peut obtenir la même chose en passant cette fois-ci par la représentation complexe. Donc, on va se servir essentiellement des amplitudes efficaces complexes qui donc rassemblent la valeur efficace et la phase de chacun des courants. Donc, on va écrire que grand I exponentielle J phi, que je cherche à déterminer, est égal à I1 exponentielle J phi 1 plus I2 exponentielle J phi 2 plus I3 J exponentielle J phi 3 avec une écriture en exponentielle ou une écriture avec une notation phaseur. D'accord ? Et ensuite, dans le prochain cours, on verra des exemples pour justement aller jusqu'au bout de ce calcul-là. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc le prochain cours, on va donc appliquer tout ça en introduisant donc la notion de résistance, de bobine et de conductance et de condensateur, et on va voir les nouveaux termes qui vont apparaître en concernant donc chacun de ces dipôles. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.